J'étais très touché parce qu'un de nos séminaristes de cette année, vous savez que les séminaristes ne font qu'une année ici au séminaire, et ensuite tout le reste, ils le font à Écône, donc c'est une année de spiritualité. Et un séminariste a pensé à vous. Vous êtes content? Donc, dans cette lettre qu'il m'adresse, c'est le 10 juillet, il fait allusion à une retraite qu'avec M. l'abbé Callier, on leur a prêché aux séminaristes. Ils ont une retraite d'entrée, une première retraite de Saint-Ignace, ils ont une retraite de prise de soutane, ouais. Ils ont, donc ça dure 3 jours, la première 5 jours, 3 jours, ensuite une retraite de 10 jours, hein. Ah, ils sont bien, je dirais. Et ensuite, ils vont avoir une autre retraite encore à la rentrée. Donc, vous voyez, on vous ménage finalement. Donc, dans cette lettre, qui vous êtes concerné, il fait allusion à cette retraite qu'on a faite ensemble. Voilà ce qu'il dit. N'ayant pu vous saluer avant de partir en camp, je profite de ce petit mot pour vous souhaiter une bonne retraite avec les dames. Et un bon mois d'août. Si vous pouviez m'accorder une faveur, ce serait de répéter aux dames ce que vous nous avez dit à Ainay et qui m'a marqué. Le bon Dieu ne peut permettre qu'un enfant se damne et que sa mère ou son père, qui ont prié et se sont sacrifiés toute leur vie pour lui, aillent au ciel sans leur fils. C'est vrai que j'ai traité de ce sujet-là. Je leur disais que quelquefois, on est invité chez les fidèles, après la messe du dimanche, etc. Et on croit se détendre par des propos, etc. Et quelquefois, les gens, c'est presque un piège, une prise d'otage. Et pendant le repas, ils nous assènent comme ça des questions. Et une fois, c'est arrivé. Une fois, c'est arrivé. Ça m'est arrivé un repas comme ça. Ou une, c'était pas la maîtresse de maison, une personne qui était invitée avec moi. Monsieur l'abbé, vous qui parlez toujours du ciel, etc. Comment imaginer que nous, hein, parents qui avons élevé des enfants et qui quelquefois désespérons de les voir se convertir, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment nous pourrons être heureux au ciel si nous y allons nous-mêmes en pensant que nous avons un enfant en enfer? Comment vous expliquez ça? Alors, ça, c'est le coup de poing dans l'estomac. Le repas, c'est terminé. Hein. Ah, il va falloir s'en sortir. Ouais. Alors, que répondre? Eh bien, je disais à cette mère, je suis persuadé que si vous continuez à prier, ouais, eh bien, cet enfant, il n'ira pas en enfer. Et aucun de vos enfants n'iront en enfer si, effectivement, vous gardez cette volonté de les en préserver. Le bon Dieu ne peut pas résister à la prière des parents. Ouais, je pense que c'est... Et je dois vous dire que c'est un des témoignages, des exemples dont je suis le plus marqué dans la tradition. C'est que beaucoup de nos fidèles dans la tradition sont venus un petit peu sur le tard à la pratique religieuse, soit parce qu'ils ont été dégoûtés des réformes, et il y a eu tout un pan de leur vie où ils ont complètement tout envoyé promener. Et c'est précisément pendant cette période qu'ils ont eu leurs enfants. Ils se sont convertis ensuite, mais les enfants, eux, n'ont pas le même cheminement. Donc, eux qui retrouvent la foi, la pratique religieuse, etc., avec une ferveur extraordinaire, ils sont complètement minés, martyrisés par le fait de voir que leurs enfants ne suivent pas et qu'ils n'ont pas réussi à transmettre la foi à leurs enfants. Et pour eux, c'est vraiment un tourment épouvantable. Et j'ai vraiment été très impressionné de ça, de voir ce martyr des parents, voyant leurs enfants n'ayant pas la foi. Et je dois dire que c'est pour moi le meilleur stimulant, le meilleur aiguillon. Je me dis, si je pouvais avoir, dans la pratique de mon sacerdoce, le même souci des âmes qui me sont confiées, comme je le vois chez ses parents, alors ce sera vraiment, je serai un bon prêtre, il n'y a aucun doute. Et je vous dis, c'est très fréquent, je vous assure, dans nos chapelles, c'est très fréquent de voir une sorte de nos fidèles qui vivent une vie d'héroïsme, vraiment, pour obtenir coûte que coûte le salut de leurs enfants. des gens qui ont une vie, on peut dire, mais vraiment empoisonnée par toutes sortes d'ennuis, des persécutions, des maladies, des choses vraiment graves, épouvantables, mais qui, d'une certaine manière, ils ont demandé, ils ont souhaité pour obtenir le salut de leurs enfants. Alors ça me touche beaucoup. Et je dois vous dire que c'est très courant, vraiment très courant. Vous voyez, dans ma propre famille, nous sommes 8 enfants, eh bien, il y en a plusieurs, justement, qui ont été, de mes frères et sœurs, qui ont été victimes du progressisme. Ils ont été dans des maisons religieuses. Mes parents ont fait une confiance totale à ces ordres religieux. Et ces frères et sœurs, eh bien, ont perdu. Comme moi, j'ai failli le perdre. Moi, j'étais en 68, de 62 à 67, dans une communauté. C'était les frères de Saint-Viateur, à Vourles, près de Lyon. Et j'ai vu les prêtres faire casser leur autel. Ouais, dans la chapelle, et je les ai vus quitter leur soutane. Ouais. Et j'ai vu un frère qui avait été mis un peu à l'écart parce qu'il avait tendance à faire l'apostolat des balles. Alors on l'avait mis en punition chez nous. Et ce frère-là, eh bien, c'est lui qui nous faisait l'initiation sexuelle, tant et plus, etc. Ouais. Il nous avait donné, moi j'ai eu ça entre les mains, des manuels. J'étais en pleine période d'adolescence et de puberté. Eh bien, vraiment, ma sœur qui était en étude d'infirmière, elle me dit bientôt, sur le sujet, tu vas être plus compétent que moi. Alors, c'était vraiment pas la peine d'aller souffler sur la braise, hein, évidemment, à cet âge-là. Donc moi, j'ai été profond, j'ai failli perdre ma vocation. Je suis rentré chez ses frères, j'avais 10 ans, à 15 ans, ma vocation, j'y pensais plus du tout. Ouais, et j'ai été sauvé par la Pérodière, l'école de la tradition, j'y suis resté vaincu. Et là, j'ai vraiment retrouvé. Eh bien, malheureusement, certains de mes frères et sœurs n'ont pas eu cette chance, et sont partis dans la nature. Eh bien, vraiment, chez mes parents, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça, vraiment. Ma mère est morte. J'étais déjà prêtre quand elle est tombée malade, et j'avais un frère, bon, qui a toujours eu un peu, dès la naissance, des ennuis physiques, et il était un peu diminué, et il faisait un peu n'importe quoi. Et donc, ma mère était vraiment très préoccupée, très soucieuse, et je l'entends encore me dire, si le bon Dieu me demandait un bras, une jambe, ma vie pour cet enfant, je lui donne tout de suite. Eh bien, quelques mois après m'avoir dit ça, j'étais prêtre déjà, elle est tombée malade, et elle a une embolie, et etc., et elle m'a demandé elle-même de lui donner l'extrême onction, etc., et ma mère est morte en disant, je veux souffrir et mourir pour l'expiation de mes péchés et le salut de mes enfants. Voilà. Voilà. Eh bien, je dois vous dire que lorsqu'on est prêtre, qu'on est enfant et qu'on vit avec un tel héritage spirituel, eh bien, on ne vit pas de la même manière, c'est évident. Et mon père a assisté ma mère, donc pendant elle restait quelques mois malade, et puis un mois où elle était complètement paralysée. Eh bien, c'est mon père qui, jour et nuit, l'a assistée, elle était à la maison. Elle n'a pas voulu rester à l'hôpital, etc. C'est pas la peine, je ne peux pas guérir, donc je reviens chez moi, je vais mourir chez moi. Et c'est mon père qui l'a soigné. Et mon père nous a dit, je sais pas si le bon Dieu me donnera la grâce de faire une aussi belle mort qu'il a accordée à mon épouse. Alors je vais prendre les devants. Et donc mon frère, qui avait 65 ans à ce moment-là, eh bien il est rentré religieux dans la fraternité. Il est frère, il est religieux, et il a 92 ans. C'est arrivé à 65 ans, mon père et ma mère avaient le même âge, à 65 ans. Et depuis ses 65 ans jusqu'à maintenant, qu'il a 92 ans, il est religieux, frère. Ouais. Il a donné tous ses biens, etc. Et je suis persuadé. Et donc mon père, quand il avait 65 ans, au moment de sa retraite, où il est rentré dans la fraternité, il était en pleine forme. Et à Bitche, à l'école, c'est là qu'il a été avec ma sœur, qui est religieuse, qui est dans cette école. Eh bien, c'est lui qui s'occupait du jardin, qui s'occupait du chauffage central. C'est la petite Sibérie, là-bas, donc il faut y aller. Hein. Il se levait la nuit. Et encore maintenant, à 92 ans, c'est lui qui assure tous les légumes de l'école. Ils n'ont pas besoin d'aller... Et les fleurs pour la chapelle, etc. À 92 ans, il me dit, quand je me lève, je suis tout courbattu, etc. Mais quand je vais dans le jardin, ça y est, je sens que ça revient. Et à 92 ans, il me dit... les prêtres de l'école, ils sont 4 prêtres, pendant les vacances scolaires, il n'y a plus d'enfants pour servir la messe. Alors lui, il sert la messe, et il sert 4 messes par jour, bien souvent. 4 messes par jour. Il a eu des problèmes de hanche, Donc on lui a scié la... etc. C'est une opération quand même sympathique, parce qu'on vous endort jusque-là. Oui, c'est ça, jusque-là. Donc simplement, là où on va... il a tout entendu, la scie sauteuse... Et on lui a dit, évidemment, « Monsieur, après une opération aussi grave, vous allez faire des semaines de convalescence, on va vous rééduquer. » Il dit, « Non, non, vous me ramenez dans mon école. » Et là, dans la chapelle, il faisait le marathon, et c'est là qu'il a fait sa rééducation pour ce temps, en récitant le rosaire. Ouais. Eh bien, je pense, il ne me l'a jamais dit, mais pour lui, c'est essentiel. Ouais, comme son épouse, il pense qu'à une chose, c'est le salut de ses enfants. Et je vous dis, c'est, d'une certaine manière, c'est ordinaire, c'est commun dans la tradition. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux de voir que ces âmes de parents ne capitulent pas, ne démissionnent pas devant ces circonstances. On vit dans une crise dramatique et il y a beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Alors, cette certitude que j'ai, intime, que ces âmes-là ne peuvent pas être déçues. C'est impossible que le bon Dieu n'exauce pas des parents qui mettent tellement le prix à obtenir le salut de leurs enfants. C'est impossible. Mais j'ai trouvé ici ou là des passages qui m'ont conforté dans cette idée. Vous voyez, j'ai ce livre que je vous recommande beaucoup, le manuscrit du Purgatoire. C'est fait par une religieuse et c'est tout à fait, garanti par l'autorité de l'Église. Même si c'est des révélations du Purgatoire qui ne sont pas des révélations... à croire de foi absolue, on peut, je pense, véritablement. Alors, c'est deux religieuses qui communiquent. Il y en a une qui est dans le purgatoire, et qui se révèle à une religieuse, donc, qui est sur terre, pour lui demander ses prières. Et cette religieuse qui est au purgatoire, elle explique ce qui s'y passe au purgatoire. Elle explique qu'il y a 3 degrés dans le purgatoire. Donc, il y a vraiment le degré le plus bas, où les âmes qui pratiquement étaient dans un état de désespéré s'y trouvent. Et là, j'ai trouvé justement une explication qui m'a beaucoup frappé. Pour les degrés du purgatoire, je puis vous le dire, puisque j'y ai passé, il y a 3 degrés. Dans le grand purgatoire, il y a différents degrés. Donc, au moins 3, et dans le troisième, il y a encore différents degrés. Donc, le plus bas du plus bas. Dans le plus bas et le plus souffrant, qui est un enfer momentané, sont les pécheurs qui ont fait des crimes énormes pendant leur vie et que leur mort a surpris en cet état sans leur donner le temps de se reconnaître à peine. Ils ont été sauvés comme par miracle, souvent par les prières de parents pieux et d'autres personnes. Quelquefois même, ils n'ont pas pu se confesser et tout le monde les croit perdus. Mais le bon Dieu, dont la miséricorde est infinie, leur a donné au moment de la mort la contrition nécessaire pour être sauvés en vue d'une ou de quelques actions qu'ils ont faites pendant leur vie. Une seule, même une seule bonne action, le bon Dieu en tient compte. Mais c'est surtout la prière de parents ou d'amis qui leur a évité l'enfer. Je trouve que c'est très consolant. Ouais. Alors évidemment, on peut se dire, je suis très content de l'entendre, ça veut dire qu'en sortant de la retraite, je peux... Non, évidemment, comprenez que ce n'est pas ça. Je vais vous donner un autre exemple aussi qui m'a beaucoup, beaucoup touché. C'est, je vous recommande aussi, les sentences des pères du désert. C'est des petites histoires très courtes qui sont pleines de saveurs spirituelles, très faciles à lire et vraiment encourageant. Alors voilà. Il s'agit d'un mot, les sentences des pères du désert, à Solem, édition de Solem. Le bienheureux Paul, le simple, donc c'était un père du désert, raconta : j'avais un disciple qui tomba dans toutes sortes de péchés sans que je le susse. Donc c'était un moine. Son disciple, c'était un moine qui vivait dans le péché. Peut très bien, malheureusement. Il y a eu un Judas sur 12 disciples. Sur ce dont au fait, il vint à mourir. Et je priais Dieu instamment et suppliais sa Sainte Mère, la Sainte Mère de Dieu, de me montrer en quelles conditions il était après la mort corporelle. Et comme j'avais poursuivi ma prière pendant bon nombre de jours, j'entrais en extase. Et je vis mon disciple porté par 2 individus, entièrement ossifiés de la tête aux pieds, et n'ayant aucune faculté ni spirituelle ni corporelle, ne parlant absolument pas, mais comme pétrifiés. Je fus saisi d'une forte frayeur et devins comme possédé de Dieu. Je me souviens de la parole du Seigneur qui dit « Celui qui n'est pas revêtu de l'habit des noces, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où seront les pleurs et les grincements de dents. » Le fait d'avoir vu les mains et les pieds liés de ce disciple ne signifiait rien d'autre pour nous que l'extinction et l'inactivité permanente de toute pensée et intention mauvaise qui ne s'est pas conformée à la volonté de Dieu en ce siècle. Et lorsque je revins, dit-il, de mon extase, je commençais à être fort triste et soucieux. Je me mis, selon mes facultés, à faire des aumônes et des offrandes pour ce disciple, à implorer la Sainte Mère de Dieu d'avoir pitié de lui et à implorer le Dieu ami de l'homme pour lui. Et je commençais à me mortifier et à manger cru, bien qu'étant alors fort avancé en âge. Or, quelques jours après, je vois la Sainte Mère de Dieu qui me dit, la Sainte Vierge qui lui apparaît, « Pourquoi t'attristes-tu et t'inquiètes-tu, ô vieillard ?» Et je lui dis, « À cause de mon frère, madame, que j'ai vu dans le malheur. » Et la Sainte Vierge me répondit, « N'est-ce pas toi qui as demandé spontanément à le voir ? Et voici que tu as été comblé. » Tu as voulu voir dans quel état il se trouvait. Tu l'as vu. « Mais moi, je te dis... Mais moi, je dis, « Oui, je vous en prie, c'est moi qui ai demandé à le voir, mais je n'avais pas le désir de le voir en cet état, car qu'ai-je gagné à le voir, sinon pour pleurer et m'affliger aujourd'hui ?» Et la Sainte Mère de Dieu me dit, « Va, à cause de tes mortifications et de ton humilité, de ta charité, je te le montrerai, afin que tu ne sois pas triste. » Et le lendemain, je vis de nouveau le frère. Il venait à moi avec joie. Il marchait lui-même, riait et me dit, « Tes prières, Père, ont rendu propice la très sainte Mère de Dieu, parce qu'elle t'aime beaucoup. Et elle a supplié le Sauveur, et il m'a délié de mes liens, car je demeurais ligoté par les chaînes de mes péchés. » À ces paroles du frère, je fus rempli de joie, et aussitôt je vis la toute sainte Mère de Dieu qui me dit, « Maintenant, es-tu satisfait, vieillard ?» Et moi, je dis, « Oui, madame. » Et mon âme se réjouit grandement de l'avoir vue dans le délassement. Elle me dit, « Eh bien, va, et souviens-toi toujours du frère dans tes prières, tes aumônes et tes offrandes, car l'aumône et l'offrande elle-même attirent grandement la miséricorde sur celui qui est mort. » Il y a plein d'histoires comme ça, qui sont pleines d'encouragement, de confiance en Dieu, la puissance de la prière, et puis la manière très délicate dont ces moines traitaient les pécheurs, sans aucune brutalité, sans aucune violence, comment ils obtenaient la conversion de prêtres, de moines complètement pervertis, mais par des moyens extrêmement bienveillants, miséricordieux, indulgents. Ils nous montrent vraiment dans ces textes comment, pour obtenir la conversion du pécheur, il ne s'agit pas de faire du rampe dedans, mais au contraire, d'avoir cette confiance. Donc voilà, je pense avoir satisfait au désir de ce séminariste. C'est vraiment ce que j'avais dit à la retraite. Alors, ce soir, je suis chargé de vous montrer les bienfaits de la liturgie. Je pense qu'on a entendu là, Mgr Lefebvre traiter de ce sujet admirablement, et je ne vois pas tellement ce que je peux rajouter. Eh bien si, il me semble que je peux rajouter quelque chose qui va tout à fait dans le sens de ce que vous avez entendu sur la liturgie, et je m'inspire d'un petit livre que je vous recommande beaucoup, « La petite histoire de ma longue histoire ». C'est un livre donc qui a été fait par Monseigneur, enfin un livre qui vient de conférences que Mgr Lefebvre a faites à Saint-Michel-en-Brenne, aux religieuses de la Fraternité Saint-Bilice. C'est vraiment admirable, parce qu'on sent que là, Mgr Lefebvre, si j'ose m'exprimer ainsi, il se lâche, il se livre. Il a affaire à des cœurs bien disposés, etc. Autant lorsqu'on parle à des curés, il faut faire gaffe, il faut calculer son affaire, autant lorsqu'on parle à des hommes simples, aimantes, etc., les choses sont tellement simplifiées. Alors c'est vraiment merveilleux comment Mgr Lefebvre, là, vraiment parle, on sent, à ses enfants, à ses filles spirituelles, d'une manière extrêmement candide, touchante, mais très profonde, vraiment. Donc, Donc c'est très court, hein, oui, c'est ouais, une centaine de pages. Ouais. Alors, c'est très profond parce que Mgr Lefebvre, là, livre, il me semble, un peu le secret de sa vie. Comment, s'il fallait résumer une si longue existence, tout de même, quels sont les points déterminants qui lui ont permis, eh bien, d'être toujours fidèle à l'appel de Dieu? Et il le livre là, vraiment, dans des mots très simples et très concis. La petite histoire, il est très modeste, il ne cherche pas à épater, etc., de ma longue histoire. Alors, bon, je ne peux pas évidemment tout vous dire, mais il me semble, j'ai mis un petit peu, sous une forme toujours scolaire, puisque je l'aime, hein, cette forme scolaire, si vous voulez, en trois points, ouais, un peu le secret de Mgr Lefebvre, comment il s'est dirigé dans la vie. Eh bien, il le dit, c'est par le souci de faire. Voilà, c'est lui-même qui le dit. C'est les voies de la providence au cours de ma vie. Voilà un petit peu, si vous voulez, la maxime qui l'a guidé. Oui. Suivre les voies de la providence dans ma vie, tout simplement. L'abandon à la providence. Oui. Mgr Lefebvre nous répétait souvent, je me souviens, à Écône. Ouais. J'ai fait en sorte de ne jamais précéder la providence, mais d'attendre que la providence se manifeste, ouais, et me fasse signe pour prendre les initiatives, pour me diriger, etc. Ouais. Et alors, je voudrais vous montrer que cette maxime, ouais, de suivre les voies de la providence, dans la vie de Mgr Lefebvre, on peut voir trois moments, si vous voulez. Il y a d'abord la première attitude, suivre la voie de la providence, c'est d'abord s'offrir. S'offrir. Donc, montrer la disponibilité à la providence. Faites de moi ce que vous voulez. C'est vous qui devez prendre l'initiative. C'est à vous qu'appartiennent les décisions. Moi, je suivrai. Ensuite, le deuxième moment, c'est qu'une fois qu'il a fait cette offrande, ouais, eh bien, la providence se manifeste. Mais souvent, c'est à contre-pied de ce à quoi il aspire. Et ça, c'est très consolant. De voir comment Mgr Lefebvre a eu de la peine à suivre la providence. Combien c'était douloureux, combien c'était pénible. Ça, je trouve, c'est très enrichissant, parce qu'on n'a pas l'impression, si vous voulez, que Monseigneur est un surhomme, c'est un héros qui fonce au devant du martyr, etc. Et il dit au contraire que chaque fois qu'après avoir fait cet acte d'offrande, et que eh bien, la Providence ne fait que suivre sa demande, eh bien, chaque fois, il a été très douloureusement frappé par des décisions qu'il a eu peine à assumer, auxquelles il a eu difficulté à se soumettre. Ouais. Je vais vous donner des exemples. Donc, si vous voulez, j'ai fait ça en trois types. Donc, premièrement, il y a l'offrande de soi en s'abandonnant à la volonté divine. Hein. Donc, cette offrande de soi, en s'abandonnant à la volonté divine. Ensuite, il y a l'immolation. Ouais. Et il va nous montrer, ouais, que suivre la providence, ça engage un certain renoncement à soi-même, un sacrifice de ce qu'on voudrait faire, et c'est une sorte d'immolation. Mgr Lefebvre, il nous dit qu'à un moment donné, je me souviens, lorsqu'il était en Afrique, au Gabon, et que là, alors qu'il est il est sur le fleuve, etc., il est en train d'aller visiter une communauté chrétienne, et tout d'un coup, il voit une pirogue qui vient en sens inverse. De la mission, on vient lui apporter une lettre. Ses supérieurs lui demandent d'aller à Mortain, au séminaire, là, près de Paris, pour devenir supérieur du séminaire. Il nous dit qu'il en a pleuré. Pourtant, ce n'était pas Mgr Lefebvre, pas une femme laide de sensiblerie, etc. Et il en a pleuré de quitter ses missions pour lui. Il avait vraiment imaginé rester jusqu'à sa mort. Mgr Lefebvre a changé de poste une quinzaine de fois. Une quinzaine de fois. Et chaque fois, il s'était complètement investi dans son ministère. On lui demande de s'arracher et puis d'aller voir ailleurs. Quelque chose de complètement différent. Eh bien, ça a été crucifiant pour lui. Il le dit. Et je trouve ça, c'est très consolant. Ouais, pour nous, lorsqu'il nous arrive des événements de la Providence, quand bien même on s'est vraiment offert, il n'y a rien à faire, la nature est là, elle souffre, elle gémit, elle résiste, et c'est un véritable sacrifice. Et puis ensuite, c'est, il nous explique que c'est la communion en recevant des consolations. Une fois qu'il a fait le sacrifice et que finalement il s'est résigné, alors il voit qu'il est consolé. Le bon Dieu lui montre que ça marche bien. Il a des fruits exceptionnels qui le réconfortent, qui le récompensent vraiment de tous les sacrifices qu'il a fait. Alors je voudrais justement vous faire remarquer que c'est exactement la messe. C'est ce qui se passe à la messe. À la messe d'offertoire, on doit justement dire au bon Dieu, faites de moi ce qui vous plaira. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, saint Paul nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, dès qu'il a été conçu, il était conscient. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Mon Dieu, je viens pour faire votre volonté. Les sacrifices d'animaux, etc., tout cela ne peut pas vous satisfaire. Ça ne peut pas réparer le péché. Ça ne peut pas sauver les hommes. Alors, mon Dieu, vous m'avez donné un corps. Eh bien, faites de moi ce qu'il vous plaira. Notre Seigneur Jésus-Christ s'offre en sacrifice. Et c'est ça l'offertoire. Ouais, c'est l'offrande de soi. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, lisez dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ a dit au moment de son sacrifice, « Mon Dieu, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Pourtant, quelques minutes avant, il dit, « C'est pour cette heure que je suis venu. C'est pour mon sacrifice. » Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Je surabonde de joie d'arriver à ce baptême. » Il parlait de son baptême de sang. Donc vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est le Fils de Dieu. Il a voulu nous avouer que c'était trop dur. « Mon Dieu, si c'est possible que ce calice... » Mais non pas ma volonté, mais la vôtre. Ça a été vraiment une immolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce qui me touche beaucoup aussi dans l'Évangile, c'est que l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, chépite pavere, tedere, et mestu cesse. On ne comprend pas, notre Seigneur Jésus-Christ, il vient pour offrir ce sacrifice, il est volontaire, il nous dit bien, je ne suis pas victime seulement, je suis prêtre. À la croix, ce n'est pas les bourreaux qui offrent notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, il est prêtre, il s'offre, mais n'empêche qu'il est vraiment victime et qu'il souffre, il ne fait pas semblant de souffrir. L'Évangile nous dit que lorsqu'il entre en agonie, il commence à avoir peur, à avoir du dégoût, oui, et être triste, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ça veut dire que nous aussi, même si on a beaucoup de générosité, tous, je pense, on s'offre au bon Dieu avec générosité, etc. Bien, au moment du sacrifice, c'est très dur. On se sent vraiment, d'une certaine manière, sacrifié à la volonté de Dieu. Il commença à avoir peur, à avoir du dégoût. Et à être triste, ça c'est très consolant dans l'Évangile. On ne nous demande pas, lorsque nous avons quelque chose à faire, d'avoir une sorte d'enthousiasme, d'élan, etc. Ben allez-y, vous ne gênez pas, coupez les orteils, allez-y. Ben non. C'est vrai que dans les histoires des saints, vous avez ce cas-là. Mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas le plus grand du cas. Et puis si on n'éprouve pas ça, ça ne diminue en rien notre sacrifice. Même si on a la peur dans les tripes, même si on a le dégoût, et même si on est triste, ça n'enlève rien à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu que ça soit marqué dans l'Évangile. C'est très consolant. Ouais. Et puis enfin, la satisfaction. Le bon Dieu n'est pas un tyran. Il fait en sorte, si vous voulez, qu'au bout du compte, il y ait de très grandes consolations. Très grandes consolations. La consolation de notre Seigneur, une des plus belles consolations de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la conversion du larron. C'est magnifique. Vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois qu'il s'humilie, la Providence fait en sorte qu'il y ait un être sublime qui exalte. Vous voyez, quand notre Seigneur Jésus-Christ s'humilie à la crèche, il est dans la paille, etc. Là, c'est quand même, il a un concert d'anges qui vient glorieux. C'est quand même sympathique. Ouais. Il y a une belle compensation. Il s'humilie, il y a quand même les anges qui tournent autour, etc. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'humilie au moment du baptême, il se fait baptiser par... Bon, c'est un baptême, évidemment, qui n'est pas le sacrement de baptême. Il se fait purifier. Puisqu'il porte le péché du monde, Il a assumé cette tâche, et bien justement, et notre Seigneur Jésus-Christ doit subir la circoncision, etc. Il doit passer par tout ce qui était, chez le peuple hébreu, signe du péché, de l'expiation, il s'en impose. Alors qui va avoir ce beau rôle d'exalter notre Seigneur Jésus-Christ au moment où il est où il s'humilie? Eh bien, c'est le Père lui-même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Alors, là, il y a une montée en puissance. On passe des anges, hein, à Bethléem, à la grotte, au Père. Alors, il s'humilie bien plus sur la croix qu'il ne s'humiliait à la grotte et qu'il ne s'humiliait dans le Jourdain. Alors, qui va avoir l'honneur? Au moment où notre Seigneur Jésus-Christ s'humilie sur la croix, il est complètement défiguré. Qui va avoir cet honneur? Le larron! Le larron! Un bandit! Eh oui! C'est lui qui rend témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est merveilleux, ça! C'est merveilleux. C'est plus les anges, c'est plus le Père lui-même. Et il n'y a que lui. Il n'y a que lui. En public. Moi, je suis une saleté, je suis une ordure. C'est bien fait pour moi. Mais lui, quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Ça, je trouve ça merveilleux. Et quelle belle consolation. Notre Seigneur Jésus-Christ a été vraiment consolé par cet homme, ouais, qui s'est sauvé in extremis. C'est merveilleux de voir ce cœur de Jésus. On a envie d'avertir, faites attention Seigneur, ça a toujours été un voleur, un bandit, il va vous avoir. Eh bien, il s'est laissé faire. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Ouais, les belles consolations de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, eh bien, je vais vous lire des passages, vous voyez, qui vous montrent comment la vie de Monseigneur Lefebvre, c'est une messe vécue. Il nous a très bien dit, vous voyez, dans son discours, que la liturgie, c'est une vie. Et le pape Saint-Pie-X nous dit que la première source de l'esprit chrétien, si on veut vraiment vivre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la liturgie. La liturgie qui fait vraiment de nous d'autres Christ. Alors je trouve ça très beau, Monseigneur Lefebvre n'a pas été le champion de la messe de la tradition pour sauver le rite, il en a fait sa vie. Si vous lisez ça, je crois comme moi, vous pourrez vraiment vous aussi témoigner que c'est ça la vie de Monseigneur Lefebvre. Une offrande, ouais, une immolation à la volonté de Dieu et puis de très belles consolations, très belles consolations. Alors je vous lis les passages qui m'ont le plus saisi. Ouais. Dans cette vie de Monseigneur Lefebvre. Voilà ce qu'il dit. Une des leçons à tirer de mon histoire, de ces exemples que je vous donne, c'est comment le bon Dieu me menait à chaque coup. C'est le bon Dieu qui me mène. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas lui qui prend les décisions. Vous voyez, on est frappé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque vous lisez l'Évangile. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas lui qui, au coup par coup, décide « Ah, ça serait pas mal que pour glorifier mon Père et sauver les hommes, je fasse ce coup-là, hein, ça serait peut-être pas mal. » Non, chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les évangélistes disent « Sicut scriptum est ouais. ». Comme il avait été écrit, comme ça avait été décidé à l'avance. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ, toute sa vie, ça a été d'accomplir un programme qui a été fixé à l'avance. Ouais. Mon Père m'aime, dit notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. C'est ça le secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Faire la volonté de son Père. Il ne fait pas sa volonté. Eh bien, Monseigneur Lefebvre nous explique que dans sa vie, ça a été sa préoccupation. Se laisser mener par Dieu. Ouais. S'offrir pour que ce soit Dieu qui prenne vraiment les décisions. Un autre passage, Monseigneur Lefebvre dit « comme il est bon de s'en remettre totalement à la Providence pour plaire à Dieu. » Voilà son secret, s'en remettre totalement à la Providence. Alors quand il raconte tout ce qui s'est passé dans sa vie, toutes les circonstances, etc., il finit par conclure en disant « Je ne peux pas dire que ce soit moi qui ai dit « Je vais faire cela, je vais faire ceci. » Non, ça ne s'est pas passé ainsi. Je pense que, je veux que. Ce n'est pas cela du tout. Je constate, et vous avez pu le remarquer aussi, que toute ma vie, cela a été la même chose. Chaque fois, c'est toujours la Providence qui décide. C'est toujours la Providence qui décide. Ouais. Donc voilà le grand secret de Monseigneur Lefebvre. S'offrir à la Providence, me laisser mener par la Providence. Alors passons maintenant au deuxième... Comment Monseigneur Lefebvre, ouais, lorsque la Providence s'impose à lui, ouais, il éprouve vraiment une contrariété très forte, quelque chose qui lui demande de renoncer, ouais, quelquefois ce qu'il a pu faire. La Providence me menait par des chemins où je ne tenais pas tellement à marcher, mais j'ai marché. Ouais. Alors il faut traduire un petit peu, si vous me permettez, hein. Ouais. Quand il dit « la Providence me menait par des chemins où je ne tenais pas tellement à marcher », il faut dire « pas du tout ». C'est ça qu'il veut dire, hein. On peut comprendre. Ouais. Il dit, il avoue, lorsque la Providence se manifeste à lui, « moi je résiste plutôt, je ne suis pas d'accord, désireux, moi je faisais le lourd, je faisais les pieds de plomb. Ouais. Mais la Providence me tire quand même. Alors j'étais entraîné, toujours un peu plus, et à la fin j'étais pris. » Oui, notre Seigneur, Monseigneur Lefebvre nous laisse bien comprendre, ouais, qu'il se laisse tirer. Hein. C'est la Providence qui le mène, mais en le tirant. Ouais. Ça montre bien qu'il n'avait pas cette facilité, cet engouement à suivre ce que la Providence demandait de lui. Et puis le troisièmement, ouais, une fois que finalement il s'est résigné, il s'est abandonné et qu'il fait la volonté de Dieu. Ouais. Au début, il rencontre pas mal d'obstacles, quand il faut s'initier à une nouvelle charge, un nouveau poste, etc. C'est extrêmement coûteux. Mais finalement, ouais, il nous le dit, puis après, une fois que j'ai résisté et puis que la Providence m'a tiré, mais que je me suis finalement laissé faire, je vois que le bon Dieu bénit les choses et tout va bien. Ouais. Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre voit, eh bien, que les difficultés finalement s'estompent et que les premiers fruits viennent. Ouais, que ce qu'il a entrepris est fécondé par le bon Dieu. Il accompagne le bon Dieu, bénit les œuvres qui ont été faites par esprit d'obéissance, par esprit de sacrifice, et finalement tout réussit bien. Ouais. Il explique, le bon Dieu bénit, puis on finit par s'attacher à la tâche que le bon Dieu nous a donnée. Ouais. Au début, ouais, Monseigneur Lefebvre a dû faire à contre-cœur. Vraiment, il sentait aucun goût, aucune inclination à faire. Mais comme il a accepté, eh bien finalement, il s'intéresse beaucoup, il prend goût, et pour lui c'est merveilleux. Ouais. Et au moment où tout va bien, etc., hein, eh bien il dit, Seigneur, je vous remercie, eh bien à nouveau, je m'offre à vous. Et on recommence le truc. Ouais. Et toute sa vie c'est ça. Ouais. J'ai un exemple merveilleux aussi, à vous rappeler, c'est celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle nous raconte que son père, ayant toutes ses filles religieuses, il a fait cette prière au bon Dieu. Mon Dieu, c'est pas possible que vous me combliez de bénédictions de cette manière-là. Je vous en supplie, faites en sorte que ma joie sur terre ne soit pas si grande, si surabondante. Et il a été exaucé, il a une terrible épreuve, il a perdu la tête. Il a perdu la tête, le père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle a été, si vous lisez les manuscrits autobiographiques, elle a été à l'avance prévenue. Elle a eu une sorte de songe où elle a vu son père dans le jardin avec une sorte de voile sur la tête. La Providence a voulu ménager sa sensibilité et l'avertir que son père aurait... Et lorsqu'on lui annonçait qu'effectivement son père était dans cet état, elle a très bien compris qu'il était exaucé. Il était exaucé. Hein. Le père a demandé une épreuve vraiment... Oui, qui le crucifie, qui l'unisse. Sa joie était trop grande sur terre. Il trouvait ça normal, d'une certaine manière, ouais, d'avoir ses bénédictions. Il voulait payer encore davantage après avoir donné ses filles. Bon, voilà, il me semble que c'est intéressant, ouais, de voir comment, dans les exemples de ceux qui nous touchent... Oui, je vous ai parlé de mes parents, excusez-moi, je ne pense pas avoir fait du déballage, mais il me semblait important, ouais, de vous montrer qu'on a vraiment des gens comme ça autour de nous. C'est vraiment ordinaire. Et je pense qu'on n'a pas le droit de s'excuser en disant « il y a tellement de scandales, de pourriture, etc. » C'est pas vrai. Si on sait ouvrir les yeux, le bon Dieu met autour de nous de vrais héros, ouais, qui nous poussent, qui nous entraînent, qui nous encouragent, etc. Ouais, et des gens comme Monseigneur Lefebvre qui nous montrent bien que ces difficultés qu'on rencontre, de découragement quelquefois, eh bien c'est tout à fait normal. C'est pas du tout qu'on est à à croire qu'on est tombé dans la médiocrité, qu'on a trahi notre tâche, etc. C'est normal d'éprouver de la peur, du dégoût et de la tristesse dans notre devoir d'État. C'est tout à fait normal. Ça rend au contraire notre offrande beaucoup plus méritoire.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, chers frères, chères retraitantes, nous voilà donc au dernier exercice de cette retraite.
Et ne pensez pas que c'est simplement une formalité de clôture. Je pense que cette messe est vraiment le couronnement de votre retraite. On pourrait dire que c'est un peu l'agrafe sacrée qui vient tenir tout le reste de vos résolutions, de tous ces engagements que vous voulez prendre à la sortie de cette retraite. On a choisi donc cette messe votive du Sacré-Cœur, et je pense que c'est le sentiment dominant qui doit être dans votre cœur, chère retraitante, au moment de quitter ce séminaire, cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pensez que cette dévotion, cet amour à notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque messe, le prêtre vous le prêche. Vous voyez qu'à la messe, la plupart du temps, le prêtre il est tourné vers l'autel, parce qu'il s'agit avant tout, pour vous comme pour lui, de rendre hommage à notre Seigneur Jésus-Christ, de lui rendre tout honneur et toute gloire. Mais vous voyez aussi que souvent, pendant la messe, le prêtre se tourne vers vous. Et c'est très important de retenir ce que le prêtre nous dit quand il se tourne vers nous. Après avoir baisé l'autel, vraiment le contact de ses lèvres avec, d'une certaine manière, l'autel qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, sa bouche est enflammée, sa bouche est vraiment inspirée de Dieu et il vous fait des souhaits. Chaque fois que le prêtre se tourne vers vous, c'est pour vous faire des souhaits magnifiques, qui ne sont pas des vœux pieux, qui sont vraiment des engagements du bon Dieu. Le prêtre, en se tournant vers vous et en vous souhaitant des choses merveilleuses, c'est vraiment le bon Dieu qui promet, le bon Dieu qui s'engage. Vous savez que la messe, c'est un testament, un nouveau testament. Notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque messe, il renouvelle le pacte, l'alliance de Dieu avec les hommes. Donc à chaque messe, le bon Dieu, en se servant des pauvres lèvres du prêtre, eh bien il renouvelle son testament, il renouvelle son alliance. À chaque messe, notre Seigneur Jésus-Christ livre son sang pour signer ses engagements, ses promesses qu'il nous fait. Combien ça doit vous encourager, chère retraitante, de partir de cette retraite dans ces conditions-là, avec cette messe qui vraiment assure ces engagements, cette protection, cette assurance de notre Seigneur Jésus-Christ sur vous. Voilà pourquoi, après ce sermon, eh bien, vous allez vous aussi renouveler les promesses de votre baptême. Dans ces promesses, vous y mettrez non seulement l'intention générale, je m'attache à Jésus-Christ, je renonce à Satan, mais dans ces promesses général de renouvellement de baptême, vous y mettrez toutes vos résolutions précises. S'attacher à Jésus-Christ, ce n'est pas simplement avoir l'intention de bien faire. C'est vous aussi prendre des engagements, vraiment, d'être plus fidèle à votre vocation d'épouse, de mère, d'éducatrice. Tout ce que le bon Dieu vous a demandé comme mission, et puis renoncer à Satan. C'est vraiment lutter contre le défaut dominant. C'est vraiment ces occasions de péché que vous avez vues pendant cette retraite qu'il va falloir fuir, contre lequel il va falloir lutter. Donc, dans ce renouvellement des promesses de notre baptême que nous allons faire tous ensemble, il y a vraiment cet échange merveilleux entre ce Dieu qui se donne à nous, qui s'engage envers nous, qui nous promet tous ses bienfaits, et puis nous, de notre part, eh bien, qui lui jurons fidélité. Après une vraie retraite, combien nous nous sentons vraiment sincères, généreux et décidés désormais, vraiment,
à renoncer à Satan, à lutter contre nos défauts, à surmonter les obstacles à la grâce et vraiment à manifester à notre Seigneur Jésus-Christ une plus grande fidélité. Mais quand je dis « je m'attache à Jésus-Christ », c'est essentiellement à travers mon prochain. Jésus me dit « ce que vous faites au moindre d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ». Donc s'il y a une résolution que vous devez garder précieusement après cette retraite, c'est la résolution qui vous engage vis-à-vis de votre prochain. Votre plus proche prochain, c'est-à-dire votre mari d'abord, vos enfants, vos élèves si vous êtes institutrice, vos malades si vous êtes infirmière. Je m'attache à Jésus-Christ, oui, je m'engage vraiment à être plus fidèle à mes devoirs, à mes obligations. Voilà ce que ça veut dire s'attacher à Jésus-Christ. C'est la plus importante de vos résolutions, celle qui vous attache justement à être plus consciencieuse, plus fidèle à votre devoir d'État auprès de ceux que le bon Dieu a placés auprès de vous, vis-à-vis desquels vous vous sentez particulièrement engagé. Et d'abord votre mari, d'abord vos enfants, d'abord vos élèves, d'abord vos malades. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le prêtre lorsqu'il se tourne vers nous tout au cours de la messe? Eh bien, il nous dit souvent « Dominus vobiscum ». Le Seigneur est avec vous, que le Seigneur soit avec vous. Voilà, chers retraitants, vous partez avec cette absolue certitude que ce Dieu va rester avec vous. La retraite n'est pas ce moyen privilégié de recueillement où on sent cette intimité avec Dieu. Il s'engage, et à chaque messe, notre Seigneur Jésus-Christ nous le répète. Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Pensez qu'en sortant de cette retraite, c'est à chaque matin en vous levant qu'il faudra répondre à cette invitation merveilleuse. Aujourd'hui, je te demande de me recevoir. Il faut que je demeure chez toi. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui croit et vit en moi possède déjà la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, chers retraitants, cet engagement magnifique que vous fait notre Seigneur Jésus-Christ, de vous conserver sa présence, une présence intime, une présence permanente, une présence qui vous transforme, qui vous transfigure, qui vous divinise, qui vous aide à vous corriger de vos défauts et à vous revêtir des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous. Ensuite, le prêtre, avant le canon, il se tourne vers les fidèles et il dit encore « Priez, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, c'est votre sacrifice, la messe, notre Seigneur Jésus-Christ veut vous l'approprier. C'est vraiment votre bien, c'est votre propriété. » Combien c'est encourageant, chers retraitants, de penser qu'à la messe, eh bien, c'est toutes les peines que vous avez, tous les soucis, toutes les préoccupations, c'est vos souffrances physiques, c'est la conversion que vous voulez obtenir, c'est les persécutions que vous avez, mais ce sont aussi vos joies, vos satisfactions de faire le bien, vos compétences, vos qualités. Mon sacrifice est aussi le vôtre. À chaque messe, nous pensons que tous ces dons de Dieu, mais aussi tout ce qui nous peine, tout cela est vraiment uni à la sainte victime. Tout cela a une valeur d'éternité. Tout cela est divinisé. Tous ces efforts que vous avez faits pendant cette retraite, vous y avez vraiment mêlé votre sueur, vos larmes, votre sang peut-être. Eh bien, tout cela est uni à chaque messe. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre. Quelle consolation incroyable que le moindre sentiment de bonne volonté, tout cela est uni à la sainte victime et prend une valeur d'éternité. Le prêtre aussi, avant de vous donner la sainte communion, il se tourne vers vous et il vous dit « Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum » Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de vos péchés. C'est un renouvellement total. Chacun retrouve cette virginité spirituelle, cette innocence. Pensez que ces promesses de votre baptême que vous allez renouveler, c'est vraiment remettre les compteurs à zéro. vous partez comme au jour de votre baptême, surtout après une retraite aussi bien faite, surtout après une confession générale. N'y revenez jamais sur vos péchés passés. Les prochaines retraites, vous reviendrez à cette confession que vous avez faite là. Mais le passé, il est définitivement enfoui dans la mémoire de Dieu. N'y revenez pas, ce sera vraiment douter de la bonté de Dieu. Vous offenseriez gravement la miséricorde de Dieu d'aller remuer la boue de ces péchés qui ont été effacés, qui ont été pardonnés, qui ont été lavés dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le prêtre vous le dit au nom de Dieu, oui, que le bon Dieu vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission. Je vous ai dit que dans la confession, non seulement c'est l'offense faite à Dieu qui nous est pardonnée, mais c'est la dette due au péché qui est effacée. Et justement, un des moyens privilégiés pour effacer la dette, pour ne pas aller en purgatoire, pour ne pas satisfaire à cette dette, c'est de recevoir les indulgences. Et à la fin de cette messe, je vais vous donner la bénédiction qui nous obtient, à la fin d'une retraite de 5 jours, l'indulgence plénière. Vous pouvez penser que le bon Dieu, non seulement vous a rendu son amitié, mais même qu'il vous a acquitté de toute dette vis-à-vis de vos péchés, si vous êtes dans les dispositions pour recevoir cette indulgence plénière. On peut penser que celles d'entre vous, qui depuis tant d'années font cette retraite, des personnes qui nous sont vraiment pour nous l'honneur, la fierté de la tradition, qui ont connu la tradition avant même Monseigneur Lefebvre, elle pourrait dire, avant que Monseigneur Lefebvre fût, j'étais dans la tradition. C'est merveilleux, merveilleux. Eh bien, combien ces personnes qui nous donnent ce bon exemple, qui ont passé 80 ans et qui ont fait tous les exercices de piété, quel exemple merveilleux pour cette jeunesse que vous nous représentez aussi, magnifique, qui est notre espérance. Combien nous sommes fiers d'avoir nos anciens, d'avoir nos aînés qui nous donnent si bon exemple. Alors ces personnes surtout peuvent penser que si la mort les surprend, et bien sûr elle n'attend pas l'âge, mais bon, avançant dans la vie évidemment, on peut s'en sentir quand même davantage menacé si c'est une menace par cette mort, et bien ces personnes peuvent vraiment penser que cette bénédiction indulgenciée qui nous obtient la remise de dette complète de nos péchés, elle va vraiment être effective. Pour les plus jeunes qui viennent pour la première fois, sans doute faudra-t-il d'autres retraites pour obtenir cette faveur particulière. Mais ayez espérance, ayez courage, que même si vous n'obtenez pas l'indulgence plénière, déjà la dette sera diminuée de beaucoup. Ces 5 jours qui manifestent une si grande bonne volonté de votre part, c'est un effort très significatif que vous avez manifesté au bon Dieu. Pensez que non seulement il vous a remis, il vous a rendu toute son amitié, comme il l'a fait dans toute confession, à plus forte raison dans celle que vous venez de faire ici, mais en plus, vraiment, que la dette a été remise en grande partie. Et pour toutes, il n'y a aucun doute que le bon Dieu Tout-Puissant vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de vos péchés, la rémission de la dette. Ensuite, le prêtre, quand il vous donne la Sainte Hostie, il vous fait un souhait magnifique. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeterna. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle. Chère retraitante, chaque fois que vous communiez, c'est au Christ glorieux, un Christ ressuscité, un Christ vainqueur. Chaque fois que vous communiez, notre Seigneur Jésus-Christ vous fait participer à cette victoire, à ce triomphe qu'il a sur le péché. Alors chaque fois que, sorti de cette retraite, vous communierez, vous demanderez cette grâce d'être victorieuse dans vos résolutions, même si quelquefois il vous arrive, je vous l'ai dit, quand on est convalescent, il ne faut pas espérer pouvoir mener une vie normale. Il faut être patient, accepter après cette retraite de rechuter, peut-être même dans des péchés mortels, dans des péchés graves. Mais ça ne sera jamais les mêmes. Après cette bonne retraite, vous êtes toutes convalescentes, c'est sûr, au moins convalescentes, sinon guéries totalement, bien sûr. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne pente. Alors soyez patientes, soyez ambitieuses sur le désir de devenir des saintes, de devenir vraiment comme notre Seigneur, comme saint Paul le dit, des imitateurs de Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Mais en même temps, soyez patientes, acceptez que ça n'aille pas tout seul, qu'il y ait des piétinements, voire même des régressions. Mais reprenez-vous, venez vous confesser régulièrement, communiez, et vous repartez. À chaque messe, vous renouvelez votre pacte d'engagement. Je renonce à Satan, je m'attache à Jésus-Christ. Et Jésus vous donne son testament. Vous fait une nouvelle alliance à chaque messe. Et puis, donc vous voyez que le prêtre, non seulement vous souhaite la présence de Dieu, Dominus Vobiscum, il vous assure le mérite, la valeur de tout ce que vous faites, vos joies comme vos peines. Il vous assure du pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous assure de sa protection, de sa victoire sur le péché qui est effective en vous. Mais le prêtre, à la fin de la messe, il fait la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette bénédiction de Dieu, eh bien, c'est justement la garantie du succès, de la réussite. Le bon Dieu va exaucer vos prières. Vous êtes mère de famille, vous avez un métier d'institutrice, d'infirmière ou autre, vous avez besoin de votre santé, vous avez besoin de gagner de l'argent pour avoir une vie honnête et honorable, pour donner à vos enfants une éducation vraiment chrétienne. Le bon Dieu ne peut pas vous la refuser. Et le prêtre s'engage au nom de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors vous êtes sûr que vous aurez tous les moyens adaptés, vous aurez toutes les facilités, tous les pouvoirs qui vous permettront de remplir vos résolutions. Le bon Dieu, de son côté, bien sûr, s'engage à vous assurer dans cette bonne volonté. Alors demandons tous. Vous voyez que, bien chère retraitante, vous avez ces séminaristes, ces frères qui vous ont assisté pendant toute cette retraite. Et je pense que vous avez été profondément touchés de leur dévouement, de leur discrétion, de leur recueillement. Eh bien, pensez que ça va durer, même si ces séminaristes et ces frères, vous ne les revoyez plus. Pensez que c'est la communion des saints. Ils continueront à prier pour vous. Mais bien sûr, une des choses qui m'a le plus marqué dans cette retraite, c'est cette alternance dans les chants accomplis, de vous entendre chanter en alternance avec les frères et les séminaristes. Et je ne sais pas que si on avait eu des spécialistes grégoriennes, du chant grégorien, des religieuses, je ne sais pas si elles auraient fait tellement mieux que vous. Mais sincèrement, je vous le dis, vous avez très bien chanté. Et c'était magnifique. Eh bien, partez de cette retraite avec cette vision-là, gardez-la dans votre cœur, pensez que ça continue. Ces frères, ces séminaristes. Voilà la jeunesse de l'Église. Vous voyez bien que ce ne sont pas des laidrons impossibles à marier. S'ils sont là, ils ont des diplômes, ils ont un métier en main, ils se sont donnés au bon Dieu. Quelle bénédiction, chers retraitants. C'est ça la tradition, elle revit. Autant nous sommes fiers de nos aînés. Heureusement qu'ils ont eu cette vertu, ce mérite, qu'ils nous ont transmis la foi. Mais vous voyez notre avenir, il est là. Il est aussi chez vos enfants, vous allez les retrouver. Pensez que tes retraites leur a fait du bien, beaucoup de bien. Oui, vous êtes profondément attachés à vos enfants, à votre mari, à vos frères et sœurs. Eh bien, pensez que cette retraite les a beaucoup enrichis. Alors voilà, demandons à la très sainte Vierge Marie que ce soit pour nous tous un nouveau point de départ. La retraite, c'est cela.